Voilà, comme Tonio l'a annoncé, on va continuer dans la lettre de Paul aux Romains. On est dans Romains chapitre 8. On a évoqué un parallèle entre l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament et avec la vie du chrétien aujourd'hui. Et on a vu que certains chapitres correspondent à des épisodes dans la vie du peuple de Dieu, du peuple juif, et ça s'applique également à nous aujourd'hui. On avait dit que Romains 1, 2 et 3, les premiers chapitres, ça faisait allusion à l'esclavage en Égypte du peuple juif, parce que ça décrivait l'esclavage au péché que l'homme naturel, dont il fait l'expérience. Au naturel, nous sommes esclaves du péché. Et puis, la fin du chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, on pourrait comparer ça à la délivrance de l'Égypte au passage de la mer des Joncs, lorsque les Juifs ont pu quitter l'esclavage d'Égypte. Et pour nous, aujourd'hui, ça correspond au salut. Le chapitre 7, on saute le chapitre 6 pour un instant, le chapitre 7, ça correspond un peu à la période d'errance du peuple juif dans le désert. Ils avaient une destination, la terre promise, un point de départ, un point d'arrivée. Il leur aurait suffi certains disent 11 jours auraient suffi, mais ils ont erré dans le désert, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Quel gâchis! Et nous aussi, on peut perdre notre temps à vivre dans la chair, à errer, à avoir ces aspirations et puis se laisser dominer encore par l'esclavage du péché. Même si on n'est pas esclave, si les chaînes ont été coupées, on peut continuer à retourner comme un chien à qui on aurait coupé la laisse qu'il attache à sa niche. Bien souvent, ils sont tellement habitués de vivre là où ils sont que même s'ils ont la liberté, ils préfèrent rester dans leur niche. Et le pécheur, il a tendance, même lorsque il est libéré du péché par le salut, il peut choisir de continuer à tourner en rond dans le péché, dans le désert. Le chapitre 6, ça correspondrait à la traversée du Jourdain. On a vu, c'était considérer que l'ancienne nature est morte. Considérer, ça veut dire mettre ça dans notre comptabilité intellectuelle, spirituelle, se dire que j'ai plus besoin d'obéir à cette vieille nature parce qu'elle est morte. La chaîne a été coupée, mais je peux continuer à aller dans la niche. Et puis le chapitre 8 de Romains, ce grand chapitre de la Bible, ça correspond à la terre promise. Dans la vie du chrétien d'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est la vie victorieuse. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de combat dans la terre promise. Lorsque nous commençons à vivre par l'esprit, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, tout est facile et tout est parfait. Et c'est vrai que dans ce beau pays de Canaan, la terre promise que Dieu avait promise justement aux enfants d'Abraham, aux descendants d'Abraham, c'était un pays qui découlait de lait et de miel. Et je pense que c'était du lait sans salmonelle et du miel. Il y avait l'abondance, mais il y avait des batailles à livrer. Et souvent, dans ce qu'on appelle les Negro Spirituals, les vieux chants des esclaves noirs en Amérique, il y avait la fausse comparaison que traverser le Jourdain, c'était arriver dans la vie éternelle avec Dieu. Non, le Jourdain, ça menait d'abord à la terre promise avec ses difficultés, ses combats. N'empêche que ces chants sont merveilleux et ils expriment une aspiration profonde de liberté et qu'on est au bénéfice encore de cette musique gospel qui nous fait tellement de bien. On va livrer des batailles, mais on a dit qu'on va les livrer d'une position de victoire parce que nous sommes en Christ. Et donc, Romains 8, encore une fois, c'est un chapitre clé dans la Bible pour expliquer comment nous devons vivre nos vies. On avait vu dans le chapitre 7, qui correspondait à cette errance, cette vie dans la chair, Paul expliquait que lui-même, il n'arrivait pas à faire le bien qu'il voulait, et il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Et si on est honnête avec nous-mêmes, c'est bien souvent encore notre expérience. Mais, à la fin du chapitre 7, il disait « Homme misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Et on a expliqué là aussi que le corps de mort, c'était un supplice pour un condamné à mort. On attachait un cadavre sur son dos et il finissait par mourir lui-même. C'était quelque chose un supplice terrifiant, un sadique, un psychopathique, mais c'était une réalité à l'époque. Et donc il crie, qui va me délivrer de cette vie, cette loi du péché et de la mort? Mais il disait pas quoi, qu'est-ce qui va, mais qui va me délivrer? Il avait déjà saisi la solution. Il disait que Jésus-Christ, notre Seigneur, pouvait nous libérer. Il disait, « Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Notre vieille nature, elle est esclave de la loi du péché, mais on a dit aussi que le chapitre 8, c'est une transition forte entre la vie dans la chair et la vie selon l'esprit. La solution à nos problèmes, la solution pour avoir cette vie victorieuse, c'est de vivre avec un nouveau maître, le Saint-Esprit. Ça, c'était le début du chapitre 8. On avait vu d'abord qu'en entrant dans cette terre promise, il y avait un grand panneau. Ce grand panneau disait « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Il n'y a plus de condamnation. Est-ce qu'on ne vit pas toujours avec ce sentiment de condamnation lorsqu'on succombe au péché, on est condamné? On se dispute avec quelqu'un alors qu'on ne voulait pas se disputer. On est avec nos époux, nos épouses. On est triste, on est attristé, on se sent condamné. J'ai encore laissé ma vieille nature prendre le dessus. Mais si on laisse ce nouveau maître, le Saint-Esprit, dominer de plus en plus notre vie, alors les choses changent. Et on a vu la semaine dernière qu'on avait une nouvelle relation avec Dieu. On était devenus les enfants de Dieu. Les versets 14 à 17. Et il nous donnait des signes de ce que c'était une réalité, qu'on était des enfants de Dieu. c'était déjà qu'on commençait à obéir à Dieu. Il y avait une autre preuve subjective, c'était l'esprit d'adoption. On a expliqué aussi que à l'époque, un fils naturel pouvait être révoqué en quelque sorte, renié, perdre ses droits de succession, mais qu'un enfant qui avait été adopté, lui, il était plus en sécurité qu'un enfant naturel, un enfant du sang. Et c'est ce que la Bible nous dit, nous sommes les enfants de Dieu. Moi-même, on peut dire l'expression « les enfants de Dieu », »,« je suis un enfant de Dieu », mais c'est tellement profond, c'est tellement riche, c'est tellement plein de promesses. Et une des promesses, c'est justement que nous devenons héritiers du Père. Dieu a créé tout l'univers. Quand j'étais enfant, il y avait une revue pour les enfants qui s'appelait « Tout l'univers ». Peut-être que certains s'en rappellent, pour les moins jeunes d'entre nous. Et malheureusement, c'était une revue avec une philosophie complètement humaniste. Et elle décrivait des choses dans l'univers, mais il n'y avait aucune référence à Dieu. Et tout était question de progrès humain. On sait bien que maintenant, on en est revenu. Et même si les gens rejettent Dieu, la plupart d'entre eux ne font plus trop confiance à l'homme pour le progrès dans la race humaine. Et je dis ça, et en même temps, c'est vrai que ça nous invite à comprendre que si les gens rejettent Dieu autour de nous, ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas en recherche. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas soif de trouver le vrai Dieu. Et on peut penser, oh non, c'est quelqu'un d'athée, c'est pas la peine de lui parler de Dieu. Souvent on est surpris lorsque l'on offre de prier pour les gens, lorsqu'on leur partage notre espérance, de voir que ça résonne. Parce qu'on a tous en nous ce sentiment de l'éternité, l'Ecclésiaste chapitre 3. Et donc, il y a cette vie qui est disponible, qui est encouragée, et nous sommes des enfants de Dieu, on peut crier « Abba, Père, Papa », on peut appeler le Créateur de tout l'univers, des galaxies dont on ne sait même pas le nombre. Je parlais d'une vidéo que j'ai mise sur le site de Calvary Chapel Nice qui montre un peu les dernières avatars des théories scientifiques, et ils réalisent qu'en fait la Voie lactée qui comporte notre système solaire, qui est une grande galaxie, en fait elle fait partie elle-même, elle est une infime partie d'un ensemble de myriades de galaxies. Et on prend le vertige, quand on commence à penser à toutes ces choses. Et pourtant, le Créateur de tout cela, il nous dit, tu peux m'appeler papa. On le limite tellement, notre Dieu, dans nos attentes, dans nos espérances, dans nos demandes. Les anges, j'aime bien dire ça, ils ne comprennent pas comment on ne prie pas davantage. Alors ça, c'est une histoire, mais je crois que ça reflète certainement une réalité. Ils sont là en train de nous regarder, ils nous voient avant le repas, en train de nous mettre à prier. Ils disent, ah ça y est, ils prient, viens voir, ils sont en train de prier. Ils vont demander des belles et grandes choses à Dieu qui va se réjouir de les leur accorder. Et puis ils écoutent, et puis ils disent non. Ils ont juste prié pour les spaghettis. Alors c'est très bien de remercier Dieu, mais pensons que Dieu est capable de faire des choses infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Non seulement il peut faire des choses, il peut faire des choses que nous lui demandons. Il ne s'arrête pas là, il peut faire au-delà de ça. Et non seulement ça, mais il peut faire infiniment au-delà de ce que nous lui demandons. Non seulement ça, mais même si nous pensons à quelque chose, il peut le faire, et il peut le faire en grand, il peut le faire au-delà de ce qu'on a pensé, et il peut le faire infiniment au-delà de ce que nous avons pensé. Le Dieu de l'univers est notre papa. Si Daphné demande quelque chose à Tonio, Tonio va faire tous ses efforts pour, dans la mesure où c'est légitime et c'est bon pour elle, il va essayer de répondre à la demande de son enfant. Et de la même façon, Dieu veut répondre à nos demandes. Alors on pourrait se dire, mais c'est formidable, avec tout ça, tout va marcher comme sur des roulettes. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Nous n'allons plus avoir jamais de difficultés. Nous sommes devenus cohéritiers. Verset 17 nous disait, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Nous allons hériter de toutes choses, au même titre que Jésus-Christ. Nous sommes hérités de Dieu et nous héritons de toutes les bénédictions divines comme Christ. Et puis nous allons aussi hériter de la gloire. La gloire, c'est une notion un peu difficile à saisir. Qu'est-ce que la gloire ? Je pense que la gloire, c'est être riche, c'est être connu par les hommes. Et en conséquence, être riche, être admiré, être adulé. La gloire, une meilleure définition, c'est de l'excellence vraie. C'est quelque chose qui est lourd. Le mot qui désigne la gloire en hébreu, c'est le même mot qui veut dire quelque chose est lourd. Aujourd'hui, les jeunes qui apprécient un concert de musique un peu rap ou un peu techno ou je sais pas les dernières modes, ils disent « Ah, ça envoyait du lourd ! Ça envoie du lourd ! C'est costaud, on peut mettre les dents dedans, les oreilles en prennent plein les tympans. » Et la gloire, c'est de l'excellence démontrée. C'est quelque chose de la perfection. C'est quelque chose qui nous donne envie d'admirer, qu'on a envie d'admirer. Dans la nature, on voit la beauté de la nature, un coucher de soleil, quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on sort son appareil photo, son téléphone, on prend une photo. S'il n'y a personne autour de nous, ben, s'il y a quelqu'un à côté de nous, on dit « viens voir, tu vas voir ce soleil ». S'il n'y a personne, ben, on le met sur les réseaux sociaux. « Regardez ce que j'ai vu ». On a besoin de partager. On peut pas, c'est trop pour garder tout seul, à garder pour soi-même. On a envie de dire la gloire. On est cohéritier de la gloire. Et il est dit qu'on est on a tous péché, qu'on a été privés de la gloire de Dieu. On a du mal à bien... Moi-même, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, mais Dieu veut partager sa gloire avec nous. Il veut que nous aussi, nous soyons beaux, que nous soyons digne de contemplation. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais il nous l'avait donné dans le jardin d'Éden. Et l'homme, en péchant, a rejeté cette gloire. Il s'est éloigné de la gloire de Dieu et il est privé de la gloire de Dieu. Alors, on est privé parce qu'on n'est pas en présence de la gloire de Dieu, mais je crois que d'après Romains 8, ça va plus loin. La gloire que Dieu voulait qu'il rejaillisse sur nous, on est privé de cette gloire. Et donc, encore une fois, cette gloire, c'était la flamme qui se trouvait dans le Saint des Saints, au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Il y avait la Shekinah en hébreu, la gloire de Dieu. Et la promesse, c'est que nous allons aussi baigner dans cette gloire. Tous autant que nous sommes, si nous restons fermes jusqu'à la fin, si nous appartenons à Christ, nous serons glorieux. Je ne sais pas encore, comme je vous le dis, comme je le confesse, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Des fois, je disais à Dieu quand j'étais jeune chrétien et que je me retrouvais dans la nature, au bord d'un lac, en train de pêcher des truites, avec un beau soleil. Je disais, Seigneur, ça me suffit. Pas plus, j'en peux plus. C'est assez beau pour moi. Mais il a quelque chose de mieux encore. Et ces petites émotions qu'on peut ressentir, en fait, c'est la façon dont Dieu, c'est le doigt de Dieu qui nous montre le futur. Il nous dit tout ça, la beauté de la nature, la beauté d'un enfant, l'amour dans une famille, l'amour pour votre époux, pour votre fiancé, tout ça, c'est juste mon doigt. Et il y a un proverbe chinois qui dit que lorsque le sage montre la lune, le chien regarde son doigt. Et nous aussi, bien souvent, lorsque la Bible nous parle de cette éternité future de gloire, nous on regarde le doigt, au lieu de regarder à Dieu, de nous tourner vers sa magnificence et de nous dire qu'il va partager ça un jour avec nous. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. À ce mot de souffrons, souffrance. Ça, c'est pas un mot qu'on aime. On va lire les versets 18, à partir du verset 18, donc c'est page 1275. Dans la Bible que vous pouvez avoir empruntée. Et on va s'arrêter au verset 27. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, ou à la futilité dans d'autres versions, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Si vous êtes déjà allé à Venise, ou peut-être même si vous avez juste entendu parler de Venise, vous avez entendu parler du pont des soupirs. Et ce passage que je viens de lire, on pourrait l'intituler « Le pont des soupirs ». Alors on pense Venise, la ville romantique, ça devait être les soupirs des amoureux. En fait, non, pas du tout. L'origine du mot « le pont des soupirs », c'était parce que ce pont reliait une salle d'audience, un tribunal, au bâtiment où les prisonniers purgeaient leur peine. Et en fait, les prisonniers qui passaient sur ce pont, les gens qui empruntaient ce pont soupiraient parce que c'était de la souffrance promise, c'était de la peur, c'était de la peine, c'était du chagrin, c'était pas des soupirs romantiques. Ça fait que ça marche encore mieux avec notre texte. C'est des soupirs devant la souffrance. Et là, on dirait vraiment que tout le monde y soupire. Il y a d'abord le soupir de la création, il y a le soupir du croyant, et puis il y a le soupir de l'esprit. Paul commence plutôt dans notre passage, ce verset, il nous dit que il estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Paul, il avait le droit, les références pour parler de souffrance. Il suffit de lire certains de ses textes. On peut juste... Dans 2 Corinthiens 11, je vais le lire, passage 23 à 33, il nous disait, parlant des faux serviteurs, des faux apôtres, « Sont-ils serviteurs de Christ ?» Je parle en termes extravagants. « Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les emprisonnements bien plus, par les coups bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1 de fouet. » 3 fois j'ai été battu de verge, des baguettes sur le dos. 1 fois j'ai été lapidé, on m'a lancé, on m'a fait presque mourir avec des pierres. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et puis, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. C'était vraiment un apôtre, il avait le souci de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'ai pu échapper à ses mains. Et ainsi de suite. Il connaissait ce que c'était que de souffrir pour Dieu. Il avait tout subi, tout reçu. Et pourtant, il était comme le lion, le petit lapin du Racel. Il continuait de servir Dieu, d'annoncer l'Évangile. Et il nous dit, voilà, la souffrance je connais, on dit Toys R Us, la souffrance c'est Paul. Il peut revendiquer, il sait ce que c'est que la souffrance, il dit, j'ai pris une balance avec deux grands plateaux. Et d'un côté, j'ai mis toutes ces souffrances que je viens de décrire. Les coups, les peurs, les brigands, les trahisons, les lynchages. On l'a lu. Vous pouvez vous y replonger. Toutes ces souffrances dans un plateau. Le plateau était par terre. Mais il a dit de l'autre côté, j'ai mis, nous dit-il, la gloire qui va être révélée pour nous. Et d'un seul coup, parce que la gloire, encore une fois, c'est lourd, hein, ça envoie du lourd, la gloire. Poum ! C'est de l'autre côté que ça a penché maintenant. Toutes ces souffrances, elles ont été jetées en l'air par le poids de la gloire qui a fait basculer la balance. Et c'était sa conviction. C'est pour ça qu'il était prêt à endurer toutes ces souffrances. Est-ce que nous, on commence à penser à ça lorsqu'on doit faire des sacrifices pour le Seigneur? On doit se lever de bonne heure le dimanche matin. On doit s'engager à servir. Est-ce qu'on a une idée du poids de gloire qui nous attend? Comment Dieu a de belles choses en réserve? Et donc, j'aime bien une autre chose à dire, c'est que pour un chrétien, ce qu'il connaît de mauvais ici-bas, ce sera ce qu'il connaîtra de pire dans toute l'éternité. Parce que ça va aller en s'améliorant. Il n'y aura plus de retour en arrière. Par contre, pour le païen, pour celui qui refuse l'amour de Christ, qui le rejette, ce qu'il connaît de bien ici-bas, c'est ce qu'il connaîtra de mieux dans toute l'éternité. Une auteure chrétienne, Claire Lise de Benoît, a écrit « Les larmes des croyants sont des diamants d'espérance. Les souffrances valent la peine. » Donc les soupirs, la création. La création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle a été soumise à l'inconsistance, à la vanité, à ce qui est vide. Pas parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et il dit, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. L'écologie. La bonne écologie, c'est l'écologie divine. C'est de remettre Dieu dans l'équation. Ce n'est pas à coup de législation et de nouvelles techniques. La création souffre. C'est bizarre de penser cela, mais elle a été soumise à la vanité. Lorsque l'homme a péché, vous vous souvenez que d'un seul coup il y a eu des ronces sur les plantes, la mort est entrée aussi dans le monde animal. La création, ce que le monde aujourd'hui appelle la nature, n'a pas échappé à la malédiction de la chute. Il y a une photo en ce moment qui traîne sur les réseaux sociaux d'une île dans le milieu de l'Atlantique où il y a des kilomètres de bouteilles de déchets en plastique, de bouteilles là, et les animaux en soufflent, les animaux ingèrent les plastiques, les sachets, tout ça. On a fait du mal à la nature par notre péché. Elle souffre. Il parle de la servitude ou de l'esclavage, de la corruption, la servitude de la corruption. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a fallu attendre le 19e siècle pour que des scientifiques découvrent la loi, la notion d'entropie, la seconde loi de la thermodynamique, qui a des usages pratiques, mais qui dit qu'en fait, un système lissé à lui-même tend à se dégrader. Le désordre grandit lorsqu'on laisse un système à lui tout seul. J'aimais bien faire la remarque que c'était, je pouvais le vérifier avec mes enfants si je les laissais avec une boîte de Lego dans une chambre et que je revenais un peu plus tard, le désordre avait envahi la pièce. Je pourrais parler pour moi, mon fils pourrait me dire « Papa, tu fais la même chose avec tes affaires ». Et c'est vrai. Mais cette loi, elle reflète cette vérité spirituelle. Tout se dégrade. Vous avez acheté peut-être une nouvelle voiture, vous allez en acheter une nouvelle. Je peux vous dire qu'au bout de 20 ou 30 ans, la rouille aura bien commencé son attaque. Tout semble se pourrir, mourir, se putréfier. C'est la chute sur la création. Et même pour ceux qui sont intéressés à la musique, on dit souvent que il y a deux types de gammes, les gammes majeures et les gammes mineures. Alors on ne va pas faire du solfège, mais pour ceux qui connaissent, on dit que les gammes mineures, ce sont les gammes qu'on utilise dans des chants qui sont tristes. Que les gammes majeures, c'est le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do typique, ça peut exprimer la joie. Mais certains ont fait remarquer, en écoutant la nature, les vents, les marées, les oiseaux, tous ces sons qu'on peut entendre dans la nature ont tendance à être en gamme mineure. Je vous laisse ça comme sujet de réflexion, recherchez ça sur Wikipédia, parlez-en avec vos profs de musique, etc. Mais le désordre croissant qui se manifeste dans la nature, il n'est pas naturel. Il n'était pas là au départ. C'est la marque de la corruption par l'homme. Mais cette même nature, elle peut être sûre, elle peut espérer d'être libérée de l'esclavage de la corruption et prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette nature, elle va être restaurée. Elle va être remplacée, elle va être belle de nouveau. Psaume 102, versets 24 à 27, « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit. » Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Le fait qu'il va y avoir une restauration, c'est que le verset 22 nous dit que la création souffre tout entière. Elle soupire, encore une fois, c'est cette gamme mineure. Quand vous entendez le vent, c'est la nature qui gémit, qui se plaint du péché de l'homme qui l'a mise en sous l'esclavage d'une corruption, sous la loi de l'entropie, le désordre qui augmente, la putréfaction qui arrive. Mais elle souffre les douleurs de l'accouchement. Et pour les mamans ici, vous savez que les douleurs de l'accouchement, c'est terrible. Même avec les produits chimiques ou sans les produits chimiques, les péridurales ou sans péridurales, il y a une souffrance, mais elle en vaut la peine. Ça dépend des jours. Certains pensent. Mais la joie d'une maman lorsqu'on est à moitié morte, mais on lui met ce petit tas de chair presque informe qui ne bouge pas beaucoup encore. Et là, d'un seul coup, l'émotion la gagne. Elle pleure de joie. La nature va changer de gamme. C'est beau et poétique, ça, mais c'est des réalités. Puis il y a le soupir des croyants, les versets 23 et 25. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Au soupir un peu irréfléchi de la création qui subit, se superpose notre soupir. Et pour ceux qui connaissent Dieu, qui ont été régénérés par le Saint-Esprit, nous comprenons pourquoi nous soupirons. Dans 2 Corinthiens 5, Paul disait « Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. » Notre corps, il vieillit. On peut faire tous les programmes de fitness qu'on veut, on peut manger bio, super bio et rebio, et 10 de d'air. Notre corps, il vieillit. On veut courir, mais on ne peut plus parce qu'on a les articulations qui craquent. Il y a le cartilage qui fout le camp, j'ai la rate qui se dilate, l'estomac qui n'est pas droit, disait la chanson. Et tout ça, c'est... Ça fait mal. On a envie encore de pouvoir courir comme on le faisait quand on avait 20 ans, mais on ne peut plus. On voudrait lever l'épaule, chanter, et puis on a mal à l'épaule, on doit aller voir le kiné, on doit faire des IRM et des tas de choses. Et ce corps, c'est comme une vieille tente. Une vieille tente qui commence à prendre l'eau. Mais notre corps, il va être transformé. Nous avons cette promesse. L'adoption dont il parle ici, il dit que nous attendons l'adoption. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous déclarer fils de Dieu. Il l'a déjà fait, ça. Mais nous allons avoir la conséquence de cette adoption. Nous allons participer à toute la richesse. Et on va avoir la libération de notre corps. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est jamais conscient du bon état de notre corps tant qu'il n'y a pas des choses qui commencent à se détériorer. Vous qui êtes jeunes, sautez, dansez, courez, remerciez Dieu de pouvoir faire ces choses. Nagez, faites du vélo, sautez, faites du canyoning, faites toutes ces choses. Merci Seigneur. Ces choses-là, un jour je pourrai les refaire. Toutes ces soupirs qui expriment notre fatigue devant la vie, devant la mort, devant le chagrin, la perte d'un être cher, toutes ces choses-là, ça va être balayé. Garanti. Paul, il l'avait compris, c'est pour ça qu'il pouvait faire n'importe quoi. n'importe quel âge, ils repartaient comme le lapin. Dur à sel, dur à cuire. Et puis, c'est pas tout, mais il y a même l'Esprit Saint qui soupire. Verset 26, donc c'est vraiment le pont des soupirs. Il y a la création, il y a les croyants, il y a l'Esprit Saint. Il nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Nous avons la présence de l'Esprit Saint. Il est notre nouveau maître. Et il vient nous dire que il soupire pour nous, en intercédant pour nous. Alors on peut prendre ce passage, certains prennent ce passage pour dire qu'il faut prier en langue, mais pas nécessairement. Le don en langue, on y croit dans les limites bibliques, à savoir que c'est toujours une adoration vers Dieu, c'est pas Dieu qui nous envoie des messages par les langues. Pour ça, il a les prophéties, etc. Mais est-ce que ça vous arrive de soupirer vous-même? J'avais une vieille tante en Corse et elle avait du mal, elle était âgée, elle avait du mal à continuer à vivre. Et l'expression qu'elle avait toujours dans sa bouche, c'était « Oh Seigneur, oh Seigneur !» Et des fois simplement, quand on ne sait pas à quoi dire dans les prières, on peut gémir, on peut soupirer. Oh Seigneur, devant des choses terribles, devant des mauvaises nouvelles, soupirer. Vous pouvez, j'allais dire mugir, c'est peut-être un peu trop fort, mais vraiment, vous laissez aller. Vous dites, Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. Et c'est ça l'idée, même le don des langues, c'est ça prend le relais lorsque nos mots sont trop petits pour exprimer nos émotions, notre découragement, nos joies. Dieu sait de quoi ce qu'on ressent. Et il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il, ce matin, vous n'avez peut-être pas eu le temps de prier parce qu'il fallait se préparer pour venir ici. Mais sachez que l'Esprit Saint a déjà intercédé pour vous. Il s'est mis entre nous et Dieu pour dire « Béni ». Je ne vais pas citer de nom parce qu'il l'a fait pour tout le monde. Vous pouvez mettre votre nom et dire « Je sais que l'Esprit Saint a intercédé pour moi ce matin ». Et puis il n'arrête pas, hein, il le fait 24 heures sur 24. La gloire, la souffrance. Dieu examine les cœurs. Dieu nous connaît. Et l'Esprit Saint, en accord avec Dieu, prie pour nous. Bien souvent, dans certaines situations, on ne sait vraiment pas comment prier. Quelqu'un tombe malade, on prie tout de suite pour la guérison. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, ça part d'un bon sentiment. Mais des fois, on devrait dire, Seigneur, peut-être que tu as un but avec cette souffrance, avec cet accident, avec cette chose qui se passe. Et laisser Dieu nous consoler et Dieu répondre de la vraie bonne façon. Mais si ça ne tenait qu'à nous, on prierait tous pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Un peu comme si on laissait Daphné manger toujours de la glace au chocolat. Jamais d'autre nourriture. C'est sa nourriture préférée. Et regarder un dessin animé Elle serait, au bout de quelques années, elle connaîtrait les dessins animés, les chansons par cœur, mais elle ne serait pas en bonne santé. Paul disait dans Philippiens 3:8 « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Le poids de gloire nous attend. Il y a un auteur anglais qui écrit qu'il était un professeur à Cambridge, C.S. Lewis, qui a écrit des textes pour montrer la solidité et la validité de la foi chrétienne. Et il a écrit un livre qui s'appelle justement « Le poids de gloire ». Et il nous dit « On est appelé à briller comme le soleil. On est appelé à recevoir l'étoile du matin. Je crois commencer à comprendre ce que ça veut dire. D'une certaine façon, bien sûr. Dieu nous a déjà donné l'étoile du matin. Vous pouvez vous lever et apprécier ce don en vous levant tôt, certains matins. Et vous vous dites peut-être qu'est-ce qu'on veut de plus ? Mais en fait, nous voulons tellement de plus. C'est quelque chose dont les livres parlant d'esthétique ne remarquent pas. Mais les poètes et les mythologies le savent. Nous ne voulons pas seulement voir la beauté, même si Dieu sait que c'est déjà formidable de contempler de la beauté, nous voulons quelque chose d'autre qui est difficile à mettre en parole. Nous voulons être unis à cette beauté que nous voyons. Nous voulons entrer en elle, la recevoir elle-même. Nous voulons nous y baigner. Nous voulons devenir une partie de cette beauté. Et c'est pour ça, dit-il, que les poètes nous racontent du baratin si joli. Ils nous parlent comme si le vent d'ouest pouvait vraiment souffler dans l'âme humaine, mais il ne peut pas le faire. Ils nous disent que la beauté née du murmure, d'un son de murmure, va se transformer en visage humain, mais ça ne va pas le faire, du moins pas pour l'instant. Et puis cet auteur termine en disant, en fait, la porte sur laquelle nous avons frappé, nous aurons frappé toute notre vie avec toutes ces aspirations, elle va enfin s'ouvrir grande ouverte. Et nous serons en présence de Dieu, la gloire future. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, tu connais chacun de nous, Seigneur, chacune de nous. Tu connais les aspirations de nos cœurs, Seigneur. Parce que c'est toi qui les y as placées, Seigneur. Et le vide que nous ressentons dans nos cœurs, Seigneur, que nous essayons de combler par mille façons, il ne peut être comblé que par toi, Seigneur. cette soif de beauté, cette aspiration à chanter en gamme majeure. Ce tout après quoi nous soupirons, Seigneur, tu nous le promets. Nous en avons l'assurance. Nous avons une espérance qui n'est pas un peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça arrivera. Non, c'est une certitude, Seigneur, promesse certaine de ta parole et de ton esprit dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à te faire davantage confiance pour répondre à nos attentes les plus profondes, Seigneur. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes déjà, Seigneur, et la liste en est trop longue quand on y réfléchit sérieusement, tant soit peu. Mais ce n'est encore rien de tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Aide-nous à accepter la souffrance lorsqu'elle n'est pas causée par notre stupidité ou par notre péché, Seigneur. Et même là, il faut l'accepter parce qu'elle est la conséquence et le châtiment qui peut nous remettre sur le droit chemin. Mais Seigneur, aide-nous à te faire vraiment confiance pour gommer toutes ces souffrances. Et Seigneur, toi-même, tu as dû aller à la croix avant d'aller à la gloire, Seigneur. Nous ne pouvons pas espérer mieux que le Maître. Seigneur, sois glorifié. Nous le disons, mais toi seul mérites cette gloire, cette adoration, cette beauté, excellence manifestée. Et Seigneur, aide-nous à te faire confiance. On ne comprend pas, je ne comprends pas ce que ça veut dire que je vais partager cette gloire. Je ne sais pas si j'aurais même envie. Mais j'en suis sûr, Seigneur, c'est toi qui va préparer une demeure pour chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à vivre avec abandon pour toi, sachant que tu es là pour nous, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette ville, dans ce pays, Seigneur. Apprends-nous à espérer de grandes, grandes choses pour nous, pour toi, Seigneur, pour ce pays, pour ceux qui nous entourent. Tu veux faire une chose que si on la connaissait maintenant, on ne la croirait pas. Seigneur, agis. Merci de purifier mon cœur, de purifier nos cœurs, de nous en remettre à toi, Seigneur, de te faire entièrement confiance parce que tu es digne de gloire, tu es digne de confiance. Nous prions toutes ces choses par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.